Stéphanie, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, conférencière et derrière le blog Ensemble maintenant. On compte sur vous pour nous dire que la famille recomposée, c'est possible et faisable avec un enfant différent aussi, Stéphanie.
Oui, je le vis au plan personnel et professionnel.
Oui. Oui, voilà, parce que vous êtes aussi la belle maman, Stéphanie, d'un enfant qui vit avec l'autisme et en plus d'être psychoéducatrice. La famille recomposée, c'est déjà un défi en soi. Qu'est-ce que ça peut amener comme d'autres obstacles quand ça se passe avec un enfant différent?
Bien, c'est sûr que notre enfant qui est différent, qui a des besoins particuliers, parfois peut avoir des limitations au niveau de l'adaptation à de nouvelles situations. Donc, ne serait-ce que l'introduction du conjoint ou de la conjointe peut être peut-être un peu plus lent, peut prendre plus de temps. Pour le nouveau conjoint aussi, bien, c'est un défi, comme tu le mentionnais plus tôt, de rencontrer, de faire partie d'une nouvelle famille.
Oui.
Puis quand l'enfant a des besoins particuliers, ça peut être confrontant de voir dans le quotidien comment quelque chose qui généralement se passe bien pour l'ensemble des enfants et l'ensemble des familles devient un défi. Comment les transitions peuvent générer peut-être des crises, comment les comportements atypiques peuvent être dérangeants tant pour nous que quand on va se promener puis que, je ne sais pas moi, le regard d'un passant sur l'enfant où on sent un regard jugeant, donc ça peut venir nous troubler. Autrement que quand l'enfant n'a pas nécessairement de diagnostic et qu'il a moins de probabilité de vivre une situation comme celle-là. Là.
On sait que bien souvent, l'autisme, bon, ça entraîne certaines caractéristiques chez l'enfant, dont l'importance de la routine, la difficulté avec les transitions. Lorsque on vit la famille recomposée, comment on peut mieux préparer notre enfant à vivre ça et bien sûr les nouveaux membres de cette famille-là?
Bien, en fait, ça serait de planifier d'avance, d'en parler, tout dépendant du niveau de compréhension de notre enfant, de son niveau verbal aussi et de compréhension verbale. Ça peut être de le faire par écrit, par dessin, par pictogramme, ça va lui permettre d'anticiper quelles étapes s'en viennent, également d'y aller vraiment progressivement, donc de présenter le nouveau conjoint, de s'assurer qu'il y a des situations agréables et de plaisir qui se déroulent. Donc souvent, quand une activité que l'enfant aura choisie dans un cadre qui est sécurisant pour lui, donc pour diminuer le plus possible les sources de stress externes pour l'enfant. Et puis, si on parle justement de cohabitation, c'est de voir est-ce qu'on reste dans la même maison qu'avant, est-ce qu'on change de maison. Si on change de maison, ne serait-ce que la chambre, est-ce que la chambre, on peut la préparer en premier, c'est-à-dire celle de l'enfant, quitte à refaire un décor très, très, très semblable, voire pareil à la maison d'avant, donc pour que l'enfant ait ses repères tout de même. Donc ça peut être des petits trucs, si on veut. Sinon, ben forcément, la transition, c'est jamais facile, hein, qu'on ait un diagnostic ou pas, comment enfant. Et puis, mais ça peut être des petits trucs aussi que le parent biologique garde des moments privilégiés seul à seul avec son enfant pour maintenir ce lien-là. Et puis, éventuellement, bien, c'est sûr qu'il y a une nouvelle routine qui va s'installer. Qu'il y a des moments aussi particuliers du beau-parent avec l'enfant. Nous, par exemple, à la maison, mais c'est moi qui est en charge de la lecture avant le dodo. Alors ça, c'est notre moment à beau fiston et à moi. Nos petits moments privilégiés. On se colle, on se câline, je lis l'histoire. Mais il y a des moments où il est tout seul avec papa et ils font des activités comme avant. Même si nous, ça va faire 3 ans... qu'on cohabite, on trouve ça important de maintenir ces moments-là, finalement. Ouais.
Catherine, ça se passe comment, cette transition-là, en ce moment, pour Victor?
Nous, ça se passe très bien présentement. Comme j'ai dit, Victor et Simone connaissaient déjà mon conjoint avant qu'il soit mon conjoint. Et le lien de confiance s'est créé dans un contexte vraiment particulier avant. Donc, Victor aime beaucoup son beau-père. Et Simone aussi. Donc, présentement, ça va bien. Présentement, il s'apprivoise. Il commence justement à se rapprocher.
À faire des activités ensemble.
Oui. Victor a commencé à toucher son beau-père, ce qui est assez extraordinaire, je dirais, parce que c'est très rare qu'il touche les gens d'emblée. Lui attribue des qualités, il trouve drôle. Donc tout ça, c'est très positif.
Bon, donc on se rend compte que c'est faisable. Maintenant, Stéphanie, je veux absolument parler de cette façon dont parfois les parents qui ont des enfants à besoins particuliers ressentent très fortement le besoin de protéger davantage l'enfant. Mmh. On veut le protéger, mais à un moment donné aussi, on veut pouvoir arriver à ce qu'il s'intègre. Comment on arrive à faire le pont entre ces différents désirs-là?
Ah, mon Dieu, c'est un équilibre. Je pense que c'est une quête, en fait, qui est constante chez tous les parents et encore peut-être de manière plus prononcée chez les parents d'enfants à besoins particuliers, donc c'est ça. Comment est-ce qu'on peut, nous, adapter l'environnement puis la réalité autour pour répondre aux besoins de notre enfant, pour pas qu'il se désorganise, pour pas lui faire vivre de grandes angoisses qui seraient très, très, très stressantes pour lui, et en même temps, comment est-ce qu'on peut outiller notre enfant, pardon, pour qu'il puisse faire face à la réalité, finalement, aux embûches, aux obstacles de la vie quotidienne, puis dans le contexte de la recomposition familiale. Je pense que c'est important en tant que parent de s'écouter puis de se rappeler que avant d'être un parent, on est un homme ou une femme, un conjoint, conjointe. On a des besoins affectifs, nous aussi, à combler. Puis c'est correct de s'impliquer dans une relation amoureuse. Ça ne fait pas de nous un parent indigne ou un moins bon parent. Au contraire, si on est heureux dans les autres sphères de notre vie, quand on arrive dans notre rôle de parent, ce bonheur-là transparaît assurément. On va être plus patient, peut-être plus tolérant. Nos enfants vont avoir plus de plaisir avec nous. Et c'est positif pour eux de nous voir vivre du bonheur aussi comme modèle qu'on offre. Et donc ça, c'est important de se le rappeler. Puis en même temps, de respecter, oui, notre rythme, mais celui de notre enfant également quand on vient pour présenter notre conjoint ou notre conjointe, justement, d'y aller par petits pas, d'y aller par étapes, de voir si notre enfant vit des inconforts ou des résistances. Ouais. Encore une fois, tout dépendant de son niveau verbal, là, puis de capacité à prendre du recul sur ce qu'il ressent, mais on peut en parler de ce qu'il ressent, puis de pourquoi, et donc de valider ce qu'il vit, ça aussi c'est très apaisant pour lui.
Oui, parce que bon, on se rend compte que c'est pas le cas de Catherine, et tant mieux, mais il est vrai que parfois l'enfant peut vivre des émotions plus négatives face à ce changement-là. D'en parler est une chose, mais de les identifier en est une autre. Qu'est-ce qui peut nous amener à croire que notre enfant, et surtout dans le cas d'un enfant autiste pour qui parfois la gestion des émotions est un petit peu plus complexe, donc en tant que parent, qu'est-ce qui peut nous amener comme indice que notre enfant est plus inconfortable dans ces changements-là?
Bien, on peut observer des fluctuations, des modifications au niveau de son humeur. Fait que notre enfant qui est plus irritable que d'habitude, notre enfant qui d'habitude est très verbomoteur, là, parle moins, notre enfant qui se met en colère plus facilement, qui est plus réactif à toute la gamme d'émotions. Ça peut même être quand il est content, mais là, il est super excité puis il n'arrive plus à se contenir alors qu'avant, il arrivait à avoir un certain autocontrôle. Donc ça peut être des petits indices, modifications au niveau de l'appétit, au niveau du sommeil. Dans le fonctionnement scolaire, ça se peut qu'on ait drapeau rouge de l'enseignant, par exemple. Ouais. Ah, là, je m'inquiète, on voit qu'il est moins à l'écoute, qu'il est moins attentif, qu'il est plus agité. Donc, toutes les modifications au niveau du comportement typiques de notre enfant peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, oh, il y a peut-être quelque chose qui va pas, peut-être que c'est difficile pour lui. Alors, voilà.
Et à ce moment-là, ben on n'hésite pas à en parler avec notre enfant.
Ça, c'est clair. Puis ça, en tant que parent, des fois, on va en parler, on va mettre en place plein de choses et tout ça, mais on se rend compte que malgré tous les outils qu'on a, peut-être que là, notre enfant, il est dans une phase d'adaptation qui est peut-être trop grande pour les ressources actuelles. Fait qu'il faut aussi pas hésiter à aller demander de l'aide, que ce soit dans le réseau public, que ce soit dans le réseau privé, si on voit que l'attente, elle est trop longue ou quoi que ce soit. Mais c'est important aussi d'aller s'outiller en cas de besoin.
Oui. Stéphanie Deslauriers, vous êtes psychoéducatrice, conférencière, auteure et fondatrice de ce blog ensemblemaintenant.com. C'est toujours un plaisir de vous parler et merci de nous avoir bien fait saisir que la famille recomposée avec un enfant différent, ben c'est possible.
Oui, bien, merci infiniment, Marianne. Bonne journée.
Bye, bye.